Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondiste ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit épisode un petit peu spécial, un préambule pour l'interview qui sortira mercredi. En fait, Marion, dont vous pourrez écouter l'interview à partir de mercredi, m'a envoyé il y a quelque temps un texte qu'elle a écrit sur leur voyage en Polynésie, comme un prologue d'une plus longue histoire. Et j'ai trouvé ce texte absolument formidable. J'ai d'abord été très très touchée qu'elle me le propose en avant-première. J'étais la deuxième lectrice de ce texte après son mari. Franchement, quel honneur. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et le texte en lui-même était vraiment magnifique. Et après ces quelques pages, j'en avais qu'une envie, c'était lire la suite du roman, de cette belle histoire. En tout cas, en préambule donc de l'épisode de mercredi, je vous propose une lecture de ce texte. Et j'espère que déjà, ça vous fera voyager. Belle écoute. Et si c'était facile? Faites ce que vous voulez, a décidé le dieu, mais faites taire ce vacarme de guerre qui m'empêche de rêver. Gérard Klein. Il est 5h13 du matin. Je suis à Maupiti, dans l'archipel des îles sous le vent, en Polynésie française. Un air de bout du monde flotte ici. Une plage immense, déserte, est devenue notre aire de vie et de jeu. Nous sommes presque seuls. Notre principal contact humain est un grand monsieur dans une toute petite cabane. Chaque matin, je passe un coup de téléphone à cet étrange bonhomme pour le prévenir de mon arrivée, pour lui rappeler qu'il mette en route sa machine à café, et surtout pour être sûr qu'il se soit approvisionné en grains, parce qu'ici, le bateau d'approvisionnement ne s'arrête qu'une fois par mois. Il sait que je vais venir avec ma tasse vide, et moi, je sais qu'il m'attend. Il porte un masque, je porte un masque. Nous sommes en période de pandémie. Il est si grand qu'il dépasse de l'encadrement de la fenêtre et il ne prend jamais la peine de s'incliner, ce qui fait que je ne connais pas son visage. Ce rendez-vous est atypique et déroutant, mais il nous appartient et je ne le raterai pour rien au monde. Voilà une des raisons pour lesquelles je suis ici. La vie ne sera jamais aussi belle que dans tes rêves. Cela fait 2 mois que nous sillonnons cette vaste terre sans but précis, simplement à la découverte du monde. Ce que nous vivons, ce que nous voyons, est sublime. Pourquoi sommes-nous là? Est-ce que nous recherchons une forme de paix intérieure? Une quiétude d'esprit? Est-ce un défi? Un cap ou pas cap? Après une solide réflexion, je crois que personnellement, c'est la liberté que je recherchais. La liberté de pouvoir être ici, sans but raisonnable. La liberté, si tant est qu'elle puisse exister, nous faisait rêver sans avoir véritablement la définir. Alors nous avons été capables de tout stopper et de sauter dans un avion pour aller à l'autre bout de la planète. « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité », disait l'auteur du Petit Prince. Vaste programme. Quoi qu'il en soit, quand on atteint ce que l'on croit être sa liberté, la vie est une immense partie de jeu où l'on déplace son pion avec aisance et plaisir. Et le chemin des possibles est si vaste que l'on pourrait s'y perdre. Cela paraît même irréel. Il pleut des trompes ce matin. Il a plu toute la nuit et je me sens en paix. C'est ce matin aussi que j'ai décidé d'écrire. En plein milieu de la nuit sur cette île isolée de Polynésie française, à Maupiti, les mots sont venus me réveiller. Il y a tant de bonheur ici. Tant de rire avec si peu de choses. Même l'alimentation est rudimentaire. On ne trouve rien et on se contente de tout. Il pleut et on est heureux. Mais que nous arrive-t-il? N'ai besoin de rien, désire tout. Alors voici comment tout cela est arrivé. La raison initiale pour laquelle nous sommes ici,
c'est qu'en une fin d'après-midi d'été 2018, une idée farfelue a envahi mon esprit. Je dois dire que je crois beaucoup aux idées volcaniques, ces idées qui arrivent de façon soudaine, sans prévenir, mais qui bouleversent une vie. Ces idées qui seront trop vite controversées par vos proches si vous les divulguez, taxées de trop inquiétantes et de non conventionnelles. Ce sont des idées qu'il faut impérativement s'apprivoiser avant de les répandre. Pensées divines, elles viennent de très loin. Elles ont maturé à notre insu et soudain jaillissent au milieu d'une journée ordinaire. Beaucoup d'entre nous les considèrent comme des folies de l'esprit et les rejettent, se croyant incapables de pouvoir y accéder. La plupart d'entre elles sont donc avortées à la minute même où elles sont nées. Pour ma part, elles sont toute ma vie. C'est grâce à elles que j'ai cheminé vers mon métier, vers mon amoureux, et bientôt vers notre voyage. Et sûrement sans le savoir encore, vers une nouvelle passion. Dans tous les cas, au commencement, toutes et tous s'opposaient à leur naissance. Revenons à celle qui est à l'origine du sujet de cet écrit. Cet après-midi-là, j'ai rêvé à haute voix. Et si nous partions au bout du monde, sans projet, sans but, juste pour être ensemble? Le « nous », c'est ma famille, mon amoureux et nos deux enfants. À cette annonce, on peut dire que le dit « amoureux » fut très surpris. Mais quelle mouche avait bien pu me piquer? Je n'avais jamais manifesté ce genre d'envie. Voyager, oui, mais ainsi? Il m'expliqua, sans une très grande délicatesse, que j'étais une rêveuse et qu'un commerçant, ce qu'il était, ne pouvait quitter le navire pendant plusieurs mois au risque de couler. Ce que je venais d'évoquer était aussi saugrenu qu'une invasion d'extraterrestres. Il conclut en rationalisant la probabilité que cette idée se transforme un jour en réalité à 7%. Une certaine personne me dira plus tard que le chiffre 7 était de bon augure. Mais loin de moi l'idée d'abandonner, je décidai de partir en bataille. La grande difficulté, c'est qu'en à peine une soirée, la graine avait poussé dans mon esprit comme un haricot magique et elle ne me lâcha plus jamais. Elle obnubila mon esprit jour et nuit, devenant véritablement obsédante. Je décidai d'en informer les autres membres de ma famille. Peut-être serait-il plus conciliant? Ce fut un plus bel échec encore. Annoncer que l'on a envie de tout stopper pendant plusieurs mois et d'embarquer ses enfants et son mari avec soi apparaît vite comme de l'insouciance, voire de l'inconscience. Le risque financier est le tout premier évoqué. Effectivement, il faut travailler pour vivre. Et là, nous allions vivre sans travailler. Quelle ineptie! Le second risque concerne les enfants et leur santé physique et mentale. Ils n'iront plus à l'école. Que va penser l'équipe enseignante? Ils risquent de prendre du retard. Et s'ils se faisaient mal ou tombaient malades? Nous étions donc inconscients, mais bien vivants. Au bout d'un an où la graine était devenue une véritable jungle tropicale à l'intérieur de mon esprit, l'amoureux adhéra. Ce jour-là, ce fut le carnaval dans mes pensées. Qu'est-ce qui le fit changer d'avis? Mon obsession? Mon désir absolu de réaliser ce rêve-ci plutôt qu'un autre? Ou, tout simplement, avait-il retrouvé la raison? Quoi qu'il en soit, nous partirons. J'eus soudain un élan de peur qui vint discréditer mon rêve. Les choses devaient se concrétiser. Dans quelle direction partirons-nous? Je ne sais pas. Pourquoi faire? Aucune idée. Nous menions jusqu'ici une vie que l'on pourrait qualifier de privilégiée. Nous n'étions ni l'un ni l'autre submergés par nos emplois professionnels, nous étions extrêmement entourés, nous partions régulièrement en vacances, nous avions des loisirs, du temps. Notre charge mentale était largement supportable. Les débuts avaient été plus rugueux, mais en quelques années, nous avions adouci nos vies au gré de nos envies. Cela ne ressemblait donc pas à une fuite. Mais alors de quoi s'agissait-il? Après tout, faut-il être pauvre et malade pour avoir le crédit de faire des folies? Faut-il avoir frôlé les abysses pour vouloir vivre? Je trouvais en réalité notre vie drôlement sympathique, mais je rêvais d'extraordinaire. Et surtout à ce moment-là, j'aspirais à me prouver que j'étais capable d'accomplir ce que je qualifiais moi-même d'extraordinaire. Mathieu, l'amoureux en question, avait ainsi accepté d'abandonner, pour quelques mois, sa zone de confort, son métier, ses responsabilités. Le départ était prévu pour octobre 2020. Nous partirons 6 mois, nous déscolariserons les enfants et stopperons nos activités professionnelles respectives. Ou du moins, nous nous dématérialiserons. Rapidement, le choix de certains pays se fixa. Nous prîmes les billets, tour du monde. Telle la chèvre de ce brave monsieur Seguin, j'étais insouciante, je rêvais de verdure, d'aventure, de gambader. Je listais les vêtements et ustensiles à acheter, me renseignais sur les recommandations médicales diverses et variées, il fallait rester prudent, et m'inscrivis sur plusieurs blogs tour du mondiste. En février 2020, nous étions fin prêts à franchir le pas et le projet commençait à prendre vie. Nous démarrons notre tour en Polynésie française. J'organisais de façon très méthodique le premier mois au Fénoua, ce qui n'est pas chose aisée au vu de l'immensité des 5 archipels qui composent la Polynésie française, de la complexité des liaisons aériennes inter-îles et du coût de la vie tahitienne. Mi-novembre, nous traverserons la Nouvelle-Zélande en camping-car, nous fêterons Noël au Japon sous la neige, pour filer début janvier en Asie du Sud-Est. Philippines, Birmanie, Thaïlande, nos conversations allaient bon train sur le sujet. L'interrogation se posait sur le choix de l'hiver au Japon quand nos valises étaient remplies de vêtements légers. Les problématiques à ce moment-là étaient superflues, nous en avions bien évidemment peu conscience. Il nous restait 8 mois pour tout débrouiller et concrétiser, le timing semblait parfait. Tout le monde sur cette terre pourra imaginer la suite, car personne ne fut épargné par le cataclysme du mois de mars 2020. En effet, à cette date, je fus renversé par un tsunami. Une pandémie mondiale déferlait. La Covid-19, véritable chien dans mon jeu de quilles, j'en restais tétanisé. Alors, comme toute la population française, je me confinais. Portes et volets fermés à double tour, enfants à la maison, le monstre rôdait à l'extérieur. La télévision était devenue la machine de l'angoisse, diffusant chaque jour le nombre de morts. Nous étions condamnés à ne plus partir. Certains pleuraient leur mort, d'autres leurs emplois. Moi, c'était mon rêve que je pleurais. Je m'agrippais à mon projet sans savoir au juste ce qu'il représentait réellement. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai prié tous les jours. Oh Dieu, j'ai péché d'un trop grand nombrilisme. Je stoppais mon activité professionnelle pour garde d'enfants, ce qui n'arrangea pas mes finances. Mathieu, en tant que gérant de commerce dit « essentiel », beaucoup de nouveaux mots jaillissaient dans notre vocabulaire, se mit à travailler d'arrache-pied pour tenter de conquérir de nouveaux clients à domicile. Nous vivions pour éviter toute contamination. Nous nettoyions nos courses à la Javel, lisions les magazines le lendemain de leur achat, organisions des chasses au trésor dans le salon pour distraire nos rejetons privés de tout lien extérieur, démarrions des cours de gym en ligne et applaudissions chaque soir à nos fenêtres. L'école à la maison filait sans trop de heurts. Sur le papier, la vie était heureuse. À l'intérieur de moi, j'étais dévastée. J'avais l'étrange impression de vivre un brouillon de notre projet. Nous étions effectivement en vase clos, sans obligation extérieure, débordant d'imagination, mais si loin de la liberté dont j'avais rêvé. 2 mois et demi plus tard, le virus s'étant fait plus discret, je me remis à rêver. Mathieu, de son côté, commençait à douter. Avec force et courage, je repris la liste de nos envies initiales, des pays et des bagages appropriés, comme si de rien n'était. Mais rapidement, le projet s'écroula. À nouveau. La Nouvelle-Zélande décidait de fermer ses frontières, le Japon était surcontaminé, les États-Unis sur liste rouge, l'Amérique du Sud et l'Asie toujours confinées. Nos billets d'avion s'annulèrent les uns après les autres. La conseillère de l'agence Tour du Monde me conseilla fortement de remettre nos projets à plus tard. Cette proposition était au-delà de ma vérité. Le monde entier était donc devenu inaccessible? Non. Une collectivité d'outre-mer résistait encore et presque toujours à l'envahisseur Covid-19. La voie était libre. Nous explorerons la Polynésie française. 5 archipels, 118 îles, à 18 000 km de chez nous, nous avions matière à rêver. La décision se prit en quelques jours. Beaucoup doutaient de la faisabilité du nouveau projet au vu des conditions sanitaires et de l'ampleur des dégâts dans le monde entier. Ma détermination n'avait aucune limite. Il fallut prendre les choses en main les unes après les autres, sans douter. Les choses s'organisaient en douceur, mais le risque d'une fermeture de frontières planait fortement au-dessus de nos têtes. Nous avions maintenant passé l'été 2020, puis la rentrée des classes. Les enfants reprirent le chemin de l'école avec joie. Le mois de septembre était rempli d'attentes et d'excitation. Mais à la joie se mêla tout à coup la peur de l'échec. Malgré l'alignement intérieur que je ressentais depuis de longs mois à l'égard de ce projet, à l'heure du départ, je me mis à douter. Les pensées d'inquiétude prirent le dessus, des pensées anciennes qui ne m'appartenaient pas mais que j'avais apprivoisées avec le temps. Il était certain que je partais pour casser toutes ces croyances, pour faire l'expérience de moi-même. Le 8 octobre 2020, le ventre noué, nous fîmes nos adieux. Nous partions sans le savoir, à 15 jours du 2e confinement en métropole, et nous allions vivre 6 mois sans masque, sans restrictions, sans gestes barrières et sans touristes. La Polynésie s'ouvrait à nous et rien qu'à nous. Ce que nous avons vécu pendant ces 6 mois a véritablement bouleversé nos vies, notre façon de penser. De l'opulence, nous sommes passés au minimalisme. Nous avions 2 shorts et 3 t-shirts chacun, un sweat et des affaires de toilette de base. C'était parfait, aucun superflu, aucun doute, aucun choix. Nous vivions au gré de nos envies et des propositions aériennes. Nous avons rencontré des êtres qui seront à jamais gravés dans nos esprits. Nous avons gravé nos souvenirs à 4. C'est quoi le bonheur ? C'est maintenant ou jamais.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce magnifique texte. J'espère qu'il vous a transporté autant que moi. Et je vous dis à mercredi pour l'interview de l'auteur.